RCF.
On retient de l'Ancien Testament l'image d'un dieu guerrier, sanguinaire, vengeur. On garde en tête le dieu qui fait engloutir Pharaon et son armée dans la mer Rouge, le dieu à qui on demande d'écraser ses ennemis. Alors le Dieu de l'Ancien Testament est-il vraiment violent? Et si oui, pouvons-nous et même devons-nous croire à ce Dieu? Mais peut-être s'agit-il là d'une mauvaise interprétation et alors faudrait-il revenir sur ce Dieu qui s'engage dans l'histoire, qui rencontre l'homme jusqu'à prendre sa défense, jusqu'à l'accompagner lorsqu'il est confronté à l'adversaire. Et ce Dieu déterminé dans son souci de sauver les opprimés et de faire cesser les violences, déterminé dans son souci de transformer l'homme, c'est ce Dieu aussi qui vous intéresse, Marie-Pierre Courneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour nous plonger dans ces pages d'une intensité dramatique. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France auprès de la paroisse de Montparnasse-Plaisance à Paris. Première question, notre Dieu serait-il ou non différent du Dieu qu'on retrouve dans la mythologie grecque, comme c'est le cas pour Arès, le dieu de la guerre, fils de Zeus et de Héra? Il fait partie des 12 divinités olympiennes du panthéon grec. Et Arès, lui, il représente l'aspect violent, sauvage de la guerre. Il est associé à une rage, une soif de sang sur les champs de bataille. Et puis, dans la mythologie romaine, c'est le dieu Mars. Alors, en quoi le dieu des chrétiens, il est différent de celui de ces deux mythologies?
Le dieu des chrétiens, d'abord, la grande différence, c'est qu'il est unique. Donc, à lui seul, il endosse toutes les propriétés, les capacités de tous les différents et multiples dieux de la mythologie du panthéon gréco-romain. Mais donc, oui, bien sûr, il endosse une partie de cette violence guerrière, de cette violence que de nos jours on appellerait gratuite. À l'époque, elle n'était pas tout à fait considérée comme ça. Et on en a des traces évidentes, en particulier dans l'Ancien Testament, où la violence et la guerre sont, j'ai envie de dire, omniprésentes. Hein. Il y a des livres de l'Ancien Testament où vraiment, page après page, c'est de la guerre et de la violence. Et en fait, tous ces textes, ils ont été écrits par des êtres humains qui essayent d'imaginer comment est Dieu, mais ça reste un mystère, ça l'était pour eux et ça l'est toujours pour nous aujourd'hui. Alors peut-être que l'arrivée de Jésus, du Christ, nous donne des éléments que eux n'avaient pas, mais ça reste un mystère. On ne peut toujours pas dire comment est Dieu. Et donc, les écrivains de l'Ancien Testament, ils font ce que nous faisons tous, hein, c'est ils collent sur Dieu les défauts et les qualités humaines. On anthropologise Dieu et donc on lui confère cette volonté violente d'exterminer ses ennemis.
Mais Marie-Pierre Courneau, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que de la même manière qu'il y a dans la mythologie romaine le dieu de la guerre Mars, il y a dans la mythologie grecque le dieu de la guerre Arès, il y aurait dans la foi chrétienne, dans l'Ancien Testament, un dieu de la guerre? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou c'est totalement hérétique?
Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un dieu de la guerre, puisque dans l'Ancien Testament, il n'y en a qu'un. Mais on peut dire que le dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, est un dieu guerrier. Ça, oui. En tout cas, pour une très grande partie des courants théologiques qui s'expriment dans l'Ancien Testament.
Mais oui. Il n'est pas que ça, parce que vous le disiez justement.
Il n'est pas que ça.
Il y a d'autres.
Voilà, il y a d'autres théologies, c'est-à-dire d'autres façons de comprendre Dieu qui s'expriment aussi, moins fort, on va dire, et qui sont là pour dire qu'il y a peut-être autre chose que la guerre, il y a une autre solution. Mais c'est vrai que c'est assez majoritaire, cette idée que Dieu soit un dieu guerrier. D'ailleurs, un des noms par lequel on appelle Dieu dans l'Ancien Testament, c'est, je cite l'expression en hébreu, Yahvé Tsebaot, c'est-à-dire le dieu des armées.
Alors on verra que s'il y a un dieu qui soutient les guerriers, ça n'est jamais une fin en soi. La guerre n'est pas vue comme une fin en soi, elle est là pour transformer l'homme. En tout cas, Dieu est aux côtés de l'homme, non pas pour qu'il gagne cette guerre en quelque sorte, mais pour un but bien plus grand qui nous dépasse. Et si on revient à l'Ancien Testament, On peut d'ailleurs commencer en prenant le commencement du commencement, c'est-à-dire le premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse. Et là, on va y trouver un Dieu qui maîtrise le chaos des forces hostiles à la vie pour justement, on parlait de transformation, tirer un autre monde. Si je lis la Genèse chapitre 1, verset 2, « La terre était déserte et vide et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux et Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Et on verra après, Dieu sépare aussi la lumière de la ténèbre. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour, on a ces quelques versets souvent en tête. Mais ce qui vous a intéressé, c'est cette question du chaos, du tohu-bohu justement.
Alors oui, ce que l'on traduit souvent par « la terre était déserte et vide », l'expression en hébreu c'est « tohu-bohu » qui est passée telle qu'elle dans le français hein, et qui exprime bien cette idée de chaos. Et donc on a là, dans le fait que Dieu sépare, dans ce geste de séparation, on a symboliquement quelque chose qui est à l'époque très présent dans le Proche-Orient ancien et qui est l'idée que pour qu'il y ait une création, il faut un combat contre le chaos. Dans ce texte de la Genèse, on n'a pas le combat au sens propre. Dieu ne part pas en guerre contre le chaos, mais il sépare. Et de cette séparation naît la possibilité de la création.
Donc vous voyez la séparation comme un combat, si je vous
suis bien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est une façon symbolique de représenter le combat.
Alors si on avance un peu dans la Genèse, on va trouver un Dieu qui va chasser, certains ont trouvé que c'était très violent, l'homme et la femme du paradis. Et puis quelques pages plus loin, on franchit seulement quelques chapitres et on va arriver de ce Dieu qui donne à l'homme tout ce qu'il lui faut pour vivre heureux et paisiblement, une deuxième violence en quelque sorte, puisque après Adam et Ève chassés du paradis, va avoir lieu un autre épisode violent, c'est celui de Cain et Abel. On est au chapitre 4, versets 3 à 8. Et je vous propose de le réécouter, c'est Hugo Vincent qui va nous le lire.
De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Cain et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Cain, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Cain cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Cain apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Cain et son offrande. Cain en éprouva une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu ? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Cain s'adressa à son frère. Quand ils furent au champ, Cain se jeta sur son frère, Abel, et le tua.
Je m'arrête sur ce verset sur lequel beaucoup d'exégètes ont travaillé, c'est ce texte hébreu dont on a dit qu'il n'avait pas toujours été traduit correctement parce que Cain dit à Abel, et puis trois petits points, je sais que ça a posé beaucoup de questions, donc on est dans ces trois petits points, et suite à ces trois petits points, Cain se jette sur son frère Abel et le tue. Là où ça interroge, c'est ces trois petits points, donc ce silence, qu'est-ce qui se passe? Et quelle est la source ici aussi de la violence?
Alors vous avez tout à fait raison et vous avez bien rétabli la bonne traduction. Souvent nos Bibles traduisent par Cain parla à son frère Abel et en fait c'est Cain dit à son frère Abel. Donc en hébreu, on attend vraiment, deux points ouvrez les guillemets, et le texte de ce que Caïn va dire à Abel, mais ça ne figure pas. Et on passe tout de suite à « lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère et le tua ». Et oui, et donc l'idée qui me paraît très intéressante, c'est de dire que Caïn n'a pas réussi à parler à son frère, il n'a pas réussi à transformer sa violence en parole, en dialogue, et qu'il l'a laissé à l'état brut, et que donc il a tué son frère.
Alors ce qui est intéressant dans toutes ces histoires de combat, de violence, de guerre, c'est quelle est la source de cette violence ? Ici, on entend qu'il y a une jalousie vis-à-vis de l'offrande, vis-à-vis de Dieu peut-être aussi, et de l'offrande proposée.
Alors c'est vrai qu'on interprète souvent que Caïn est jaloux, c'est tout à fait possible. Ça n'est pourtant pas écrit dans le texte biblique, mais c'est vrai qu'on se met à sa place et on n'aurait pas été content.
Alors, ce qui est intéressant, c'est la source de la violence, mais c'est aussi la conséquence, ce qui va suivre la violence. Et force est de constater qu'après ce premier homicide, Caïn va fonder une ville. Et c'est vrai que ça amène à remarquer que la violence sociale, la vie sociale va être marquée par la violence, par cette première violence. La création de ces cités est marquée par cette histoire.
Oui, et je pense que les rédacteurs de la Bible ne s'y sont pas trompés et ils savent bien que la violence fait partie de l'être humain, qu'on ne peut pas parler d'être humain sans tout de suite amener la violence. Et donc, comme vous l'avez dit, elle arrive très très tôt dans la Genèse. Et que, ben oui, c'est quand même Caïn qui va fonder les sociétés, fonder la société, alors que c'est un meurtrier.
Marie-Pierre Courneau, Caïn, il va être condamné à l'errance. Qu'est-ce que ça vous évoque sur les châtiments de Dieu ? Parce que ça aussi, c'est une violence. Les châtiments divins qu'on peut retrouver au fil des textes aussi. Cette idée que Dieu punit ceux qui s'en éloignent.
Alors Caïn, il est condamné à l'errance, mais en même temps, on peut dire qu'il est sauvé par Dieu, puisque Dieu met sur lui un signe pour qu'on ne puisse pas lui faire payer son crime. Et donc Dieu le protège.
Et nous sommes avec Marie-Pierre Courneau, pasteur de l'église protestante unie de Montparnasse-Plaisance. Et dans cette émission où nous évoquons la place de Dieu au milieu des batailles et des guerres, je vous propose d'écouter un extrait du livre de Samuel. C'est le chapitre 15, versets 1 à 8. Il est lu par Hugo Vincent et Marie-Pierre Courneau. On vous retrouve tout de suite après.
Samuel dit à Saül, « C'est moi que le Seigneur a envoyé autrefois pour te choisir. » Avec l'huile d'onction, comme roi d'Israël, son peuple. Écoute les paroles du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait au peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils lui ont barré le passage. Eh bien, va les attaquer maintenant. Détruis complètement tout ce qui leur appartient, sans pitié. Mets à mort tous les êtres vivants, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. » Saül mobilisa l'armée et la passa en revue à Télém. Il y avait 200 000 soldats à pied et, en plus, 10 000 hommes de Juda. Saül les conduisit près de la ville des Amalécites et prépara une attaque surprise dans le ravin. Puis, il fit dire aux Kénites « Ne restez pas parmi les Amalécites, éloignez-vous-en. Je ne veux pas vous faire subir le même sort qu'à eux, car vous avez été bons envers les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. » Les Kénites se séparèrent donc des Amalécites. Alors, Saül battit les Amalécites de Havila jusqu'à Shur, à l'est de l'Égypte. Il massacra toute la population, sauf Agag, leur roi, qu'il fit prisonnier.
Alors, trouver la violence dans ces textes bibliques, on le voit là, c'est présent dès ses premiers livres, vous le soulignez. Quel est l'effet attendu pour celui qui les lit ?
Moi, je pense que un des effets les plus importants, c'est de se dire que la violence est constitutive de l'être humain. Et voilà, la preuve, elle est là dans la Bible. Dès le début, elle est partout. Et que donc, c'est illusoire de penser que l'on va pouvoir s'en débarrasser totalement. Dans tous ces textes de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est violent le plus souvent. Les guerres, quand des peuples, des rois se font la guerre, c'est en fait leurs dieux respectifs qui se font la guerre. La guerre entre les êtres humains n'est que la représentation, le témoignage du fait que les dieux là-haut, si on imagine que les dieux sont là-haut, se font la guerre entre eux. Donc la guerre, c'est nécessaire. Voilà. Et donc je trouve que c'est très soulageant, d'une certaine façon, de se dire que la violence, c'est quelque chose qui existe, que quand on est nous-mêmes, parce qu'il me semble qu'on l'est tous, ou quasiment tous, traversés par moments par des instincts de violence. Alors ça ne veut pas dire qu'on passe à l'acte, mais voilà, et ben c'est quelque chose qui fait partie de nous.
Marie-Pierre Courneau, j'ai un peu de mal à croire ceux qui disent que en chantant un psaume ou en lisant un texte où la violence est présente, au fond, on va pouvoir exprimer, ça a une valeur un peu cathartique, et on va pouvoir, en quelque sorte, faire baisser, d'une certaine manière, sa violence en la lisant dans un psaume, en la chantant, en l'exprimant.
Moi, il me semble que ça aide de se dire « Ah, mais je ne suis pas la seule qui ait des pensées comme ça ». La preuve, les psaumes, comme vous disiez, hein, c'est presque un psaume sur deux où le psalmiste dit des horreurs. Et donc oui, moi ça me rassure, je me dis oh là là, mais c'est pas moi qui suis particulièrement violente ou particulièrement folle, mais en fait c'est tout le monde et puis de tout temps.
C'est un lieu d'expression finalement.
Voilà, ouais. C'est un lieu d'expression. Et comme on a dit tout à l'heure que justement Caïn, il s'était pas exprimé et que du coup il avait manifesté sa violence physiquement en allant jusqu'au meurtre, moi je pense que c'est une bonne chose de pouvoir le dire. Et si le dire, eh bien ça permet de ne pas le faire, alors on aura quand même gagné beaucoup.
Alors, on revient à nos dieux, on l'évoquait tout à l'heure. Quel est le rôle des dieux dans la guerre ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? On a évoqué l'idée qu'ils venaient transformer l'homme et que ce n'était pas un but en soi. L'idée est en plus de travailler le cœur des hommes avec peut-être le désir que se perde son goût pour la violence, pour la mort. Quel est le rôle des dieux ?
Alors, le rôle des dieux dans l'Ancien Testament est primordial dans la guerre. Hein, c'est avant tout les dieux qui se font la guerre.
Mais quand vous dites les dieux dans l'Ancien Testament, c'est...
C'est le dieu du peuple hébreu avec les dieux des ennemis. Les dieux entre eux qui se font la guerre.
Les dieux païens, quoi.
Les dieux païens, voilà. Tout à fait, appelons ça comme ça, absolument. Et avec cette idée que tout ce qui appartient au peuple vaincu... Tout ce qui relève du peuple vaincu relève donc de sa divinité, et une fois qu'il a été vaincu, appartient à la divinité du vainqueur. Ça devient un espèce de butin du dieu vainqueur. D'une certaine façon, ça prend un caractère divin, et donc, comme tout ce qui est divin, un peu tabou, et ça doit retourner vers Dieu, vers le dieu du vainqueur. Et c'est ça qui justifie dans l'Ancien Testament ce que l'on appelle en hébreu le cherem, qui est la pratique de vouer à l'anathème ou de vouer à l'interdit, qui dans l'Ancien Testament se manifeste par le fait de tuer tout le monde, tous les animaux, et de brûler tous les objets.
Donc jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, voilà. Il ne peut rien rester de ce qui représente le peuple vaincu, parce que c'est le butin du dieu vainqueur, et du coup ça doit repartir vers le dieu vainqueur. Alors on a quelques exemples, quelques versets dans la Bible qui sont quand même, quand on les lit, on est assez mal à l'aise.
Vous pensez au livre de Samuel ?
Oui, par exemple, tout à fait.
Où là, on trouve effectivement, de fait, on va trouver à la fois cette expression du Seigneur des armées, hein, que vous évoquiez tout à l'heure, et puis l'idée que devra disparaître tout ce qui fait obstacle, en quelque sorte, au peuple de Dieu.
Voilà, il y a précisément « tu mettras tout à mort, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes ». Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est un peu lourd hein, quand on lit ça. En pratique, il est très vraisemblable que ça ne s'est pas passé, parce que si on fait la guerre à un peuple ennemi, bah, c'est en partie pour récupérer ses richesses. Hein. Donc ce serait tout à fait contre-productif de tout brûler. Donc c'est probablement symbolique.
Marie-Pierre Courneau, arrêtons-nous sur le livre de Josué, qu'on connaît mal, qui est pourtant la suite de cette très belle histoire de Moïse. Ce livre va raconter la conquête de Canaan par les Hébreux. Vous vous souvenez, les Hébreux ont été libérés du joug de l'Égypte. Et puis, ils vont venir s'installer dans le pays de Canaan avec Josué à leur tête. Et dans ces pages, Dieu va donner une terre à son peuple, mais ça va être au détriment des autres, mais surtout... on a le sentiment qu'il encourage la violence des hommes.
Et oui, il faut lire une fois dans sa vie le livre de Josué, à un moment où on est plutôt en forme, hein, parce que voilà, tout le livre est une histoire de massacre. Voilà, et le peuple hébreu pour entrer dans le pays de Canaan fait table rase des populations qui y vivaient et extermine tout le monde.
Je vous propose qu'on en écoute un extrait, puisque c'est un texte qu'on ne connaît pas bien. C'est Hugo Vincent qui va nous le lire. Et cet extrait du livre de Josué au chapitre 6, les versets 20 et 21.
La septième fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Josué dit au peuple « Poussez le cri de guerre, le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a caché nos espions. Mais attention, ne prenez rien de ce qui doit être détruit, sinon vous attirerez le malheur et la destruction sur le camp d'Israël. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze ou de fer seront mis à part pour le Seigneur et mis dans son trésor. » On sonna de la trompette. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent la population de la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux. Ils tuèrent même les bœufs, les moutons et les ânes.
Eh oui, quand on lit ça, c'est un peu dur. Et dans le premier verset qui a été lu, et le rempart s'écoula sur place. Donc on est là devant la ville de Jéricho avec cette histoire qui est relativement connue. Et on voit bien que c'est une intervention divine. Si les remparts s'écroulent quand le peuple joue du corps, c'est pas, évidemment le souffle du corps ne suffit pas. Donc c'est une intervention divine. On voit bien que Dieu est très présent là dans le combat. C'est lui qui permet au peuple hébreu de gagner. Et voilà, et ils vouèrent à l'interdit. Ils tuent tout le monde.
Dieu qui tue tout le monde, est-ce que Dieu venge l'homme? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Dieu venge l'homme?
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une histoire de vengeance. Même si dans certains textes de la Bible, les gens se font la guerre motivés par la vengeance. Ça, oui. Mais là, dans cette histoire du kherem de vouer à l'interdit, on est plutôt dans le fait que rien ne doit rester parce que tout ce qui reste appartient à Dieu. Et donc, il faut vraiment le mettre à part de l'humanité. Et le meilleur moyen, c'est de le supprimer. Mais voilà, encore une fois, ça ne s'est vraiment, vraisemblablement pas passé comme ça.
Oui, c'est important de le redire, hein, ces grandes pages de violence de la Bible ne sont pas des récits historiques, ne sont pas des écrits réalisés in situ. Mais pour nous amener à quoi, Marie-Pierre Courneau ?
Alors, vous avez tout à fait raison, et en particulier pour le livre de Josué, c'est important de dire que toute l'archéologie va dans le sens que ça ne... Historiquement, ça ne s'est pas passé comme ça. On n'a pas du tout trouvé de traces de grands massacres et de destructions massives à cette époque-là. Bien au contraire, toutes les traces archéologiques vont dans le sens que l'installation du peuple hébreu dans ce pays s'est faite très progressivement. À différents endroits et probablement par, on pourrait dire, une sédentarisation de peuplades qui étaient déjà quand même plus ou moins sur place, et donc quelque chose qui ne ressemble pas du tout au livre de Josué. Mais on a par contre dans le livre de Josué une espèce de propagande, je crois qu'on peut utiliser ce mot, à la faveur du peuple hébreu pour dire que c'est un peuple de personnes fortes, victorieuses. C'est quand même fantastique de mener une guerre pareille et de gagner sur tous les fronts à ce point-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces textes sont très très proches d'autres textes du Proche-Orient ancien qui viennent d'autres peuples, en particulier du peuple assyrien, qui a été un peuple extrêmement violent et cruel avec son apogée autour du 7e, 8e siècle avant notre ère. Et on a des textes tout à fait semblables dans la culture assyrienne, où bien sûr c'est les Assyriens qui sont vainqueurs, et on sait qu'ils l'ont été. Et donc là, probablement, le peuple hébreu essaye de dire qu'il est à la hauteur des victoires guerrières du peuple assyrien.
Comment est-ce qu'on peut arriver, pour un croyant, à concilier ce Dieu violent et ce Dieu d'amour ?
Alors, c'est une façon de se représenter Dieu. Et puis, on peut aussi dire que Dieu vient nous chercher dans nos fragilités et dans nos défauts, si on peut appeler ça un défaut, enfin dans nos travers. Il est là avec nous, même quand on a envie de tuer son prochain, non pas pour nous y pousser, non pas pour nous dire « oui, c'est une bonne chose », mais pour nous dire « je t'accompagne dans ce moment où ce que tu vas faire va attenter à la vie d'autrui et je t'accompagne pour que tu y réfléchisses, pour que tu puisses le verbaliser, pour que tu y mettes du sens et que donc probablement tu ne le fasses pas. »
Un Dieu de conversion alors, Marie-Pierre Courneau. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour la lecture de ces textes issus de l'Ancien Testament. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui voudraient se replonger dans ces textes, on a parlé de la Genèse et du récit de la création, c'est le chapitre 1, de l'épisode du récit de Caïn et Abel, c'est la Genèse, chapitre 4. On a aussi parlé de Samuel, c'était le livre de Samuel, chapitre 15. Et puis, il était question du livre de Josué que Marie-Pierre Courneau vous encourage à lire si ce thème de la guerre vous intéresse. Merci beaucoup Marie-Pierre Courneau. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France auprès de la paroisse de Montparnasse-Plaisance à Paris. À la semaine prochaine.